Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous accueillir dans le cœur de la démocratie française, cette salle qui a vu tous les grands discours républicains. Vous avez au-dessus de moi Jean Jaurès et Georges Clemenceau, qui ont été les deux grands artisans de la République française au début du siècle dernier. L'Université de Poitiers s'est associé à Union Europa pour réfléchir sur le sort de nos textes constitutionnels, au vu du temps, et proposer ainsi des regards croisés, franco-japonais, afin d'améliorer notre culture, mais surtout afin de proposer des solutions à la modification de nos textes constitutionnels. En qualité de parlementaire, mais aussi de président de l'Association parlementaire France-Japon, je vous accueille donc. Et j'accueille aussi mes amis membres du Parlement et de la Commission des lois, Sacha Houllier en particulier qui est là, et j'accueille les juristes, les professeurs de droit, les hommes et femmes politiques de haut niveau qui sont ici, notre collègue du Parlement japonais, et je me réjouis de la tenue de ce colloque d'excellente qualité, j'en suis bien persuadé, qui visera dans une première partie à confronter le temps du changement à la révision de la Constitution, puis dans une deuxième partie, à définir les limites et les voies de la révision, et enfin à se pencher sur la révision et les droits fondamentaux. J'aurai un mot particulier pour nos collègues parlementaires japonais. Je sais que M. Ishiba est intervenu par une déclaration importante, je crois, sur les problèmes qui nous concernent. Il est particulièrement important qu'il puisse ainsi intervenir, puisqu'il est ancien ministre d'État, ancien responsable du département de la Défense, de l'Agriculture et secrétaire général du Parti libéral démocratique. J'espère que le président Ferrand, président de l'Assemblée, pourra nous recevoir ce soir, après que Mme Rossi, questeur, nous ait reçus pour le déjeuner. Sachez que l'association parlementaire France-Japon est la deuxième par son importance au sein de l'Assemblée nationale. C'est donc montrer toute l'importance que nous y consacrons. Et nous avons eu une activité très chargée dans nos relations avec le Japon. Nous avons reçu en particulier le prince héritier en septembre 2018, qui est désormais l'empereur du Japon. D'innombrables délégations d'industriels, de responsables politiques, de journalistes, d'hommes de lettres viennent nous rencontrer afin de renforcer les liens éternels qui lient le Japon à la France. Et nous avons fêté le 80e anniversaire, en particulier sur le plan culturel, de tout ce qui est lié le Japon et la France. Il suffit de se rappeler les travaux que nous avons faits sur Clemenceau, le Japon et la France, Clemenceau que vous avez ici. Comment ne pas souligner également l'accueil de la délégation japonaise dirigée par M. Ishihara, accompagné de 6 députés, dont 2 anciens présidents et ministres du Midi. Juste quelques mots d'introduction pour souligner le choix difficile que vous avez fait en liant la réforme de la Constitution au temps qui passe. Et pourtant, tout cela est d'une actualité brûlante, puisque la France a commencé une vaste réforme de la Constitution, et que le Japon a lui-même décidé, c'est en tout cas la position de son Premier ministre, de se livrer à une réforme constitutionnelle dont il est possible qu'elle ne se limite pas au problème des forces d'autodéfense, à leur droit d'intervention armée et à la présence dans le cadre des délibérations de l'ONU, aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Juste quelques réflexions. Depuis 1958, la France a multiplié les réformes constitutionnelles. Cela tenait au conflit franco-algérien, mais aussi et surtout à la transformation du rôle que l'on voulait donner au président de la République, qui est désormais élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois, et qui est la pierre angulaire de toute la Constitution française. On pourrait soutenir que les innombrables modifications de la Constitution que nous connaissons enrichissent le texte initial, et qu'en particulier les questions prioritaires de constitutionnalité ont donné un coup de jeûne indéniable à notre Constitution. On pourrait soutenir également qu'à trop transformer le texte fondamental, on risque de briser la cohérence et la continuité des grandes institutions. Mais il faut bien s'adapter à son temps avec de nouveaux droits fondamentaux, notamment sur l'environnement et aux principes dits de précaution. De manière plus publiciste, et je souligne là la présence d'une spécialiste de ces questions, on doit souligner la transformation fondamentale de notre régime parlementaire, qui, année après année, abaisse le pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif et d'un véritable pouvoir administratif, et qui se heurte à ce qui n'était qu'une autorité et qui est maintenant désormais un véritable pouvoir, peut-être le premier des pouvoirs. Chacun aura reconnu l'émergence du pouvoir judiciaire. C'est une question fondamentale. Ne risque-t-on pas d'aller vers le gouvernement des juges en rendant les procureurs indépendants, et on l'a vu, comme ça a pu se passer au Japon, en particulier dans l'affaire Carlos Ghosn, et également en transformant pour nous-mêmes le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle, comme cela est susceptible de se passer dans d'autres grandes démocraties. Le Japon ne connaît pas pour l'instant ces transformations profondes. Mais qu'en sera-t-il demain avec l'exigence, non pas d'un pouvoir militaire, mais d'une organisation structurée des forces armées? Chacun se rappelle le rôle essentiel dans l'écriture de la Constitution japonaise en 1947 lors de l'époque Douglas MacArthur. La réécriture de la Constitution du Japon amènera, à n'en pas douter, à se poser, surtout si l'Allemagne, l'autre vaincue de la Seconde Guerre mondiale, en fait une question de principe, la question de nouveaux équilibres géopolitiques, liés non pas à la réforme des textes constitutionnels, mais à la remise en cause du statu quo établi depuis 1945 concernant les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme on le voit, la révision éventuelle de la Constitution japonaise ne sera pas simplement la révision d'un texte constitutionnel, mais l'analyse de la conséquence sur les rapports de forces internationaux de ces modifications. Mais il m'appartient maintenant de vous donner la parole et de vous souhaiter, dans ce cadre exceptionnel du Palais Bourbon, de rechercher ensemble ce qui compte d'abord, c'est-à-dire les meilleurs outils pour la paix. Soyez les bienvenus.
Merci, Monsieur le Président, pour ce mot d'accueil. Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, c'est un honneur de participer à l'ouverture de cet événement, un colloque à l'Assemblée nationale, dans cette salle Colbert, sur les changements de la Constitution au Japon et en France, en ce 4 octobre, date anniversaire du 61e anniversaire de la Constitution française. Après un colloque à l'Université de Poitiers en 2018, entre les universités du Japon et les universités de Poitiers, de Tours et les universités françaises, un second à la fin du mois de septembre 2019, c'est un vrai plaisir de pouvoir ouvrir ce colloque organisé par mes collègues Emmanuel Aubin et Loïc Leboyer, que je tiens très sincèrement à remercier. J'y vois le signe du dynamisme, de la coopération scientifique entre la France et le Japon et de l'amitié entre les Français et les Japonais, comme j'ai pu le constater moi-même lorsque je me suis rendu au Japon au mois de novembre 2018. J'ai vu la qualité des relations scientifiques entre nos collègues de Poitiers, Pierre-Yves Monjal, notre collègue de Tours, et les collègues des différentes universités du Japon que nous avons visitées. Ce colloque, Monsieur le Président, Monsieur le Député, cher Sacha, est un colloque inédit pour nous, car il est organisé hors les murs, au sein de l'Assemblée nationale, par l'Université de Poitiers, sous l'égide et avec le soutien de l'ambassade du Japon en France. Je tiens à remercier très sincèrement l'ambassade pour ce soutien. Et grâce à la participation de Nihon Europa, du professeur Pierre-Yves Monjal, que je salue de façon très amicale. Merci Pierre-Yves pour tout ce que tu fais dans cette collaboration entre le Japon et la France. Un colloque consacré à la révision des constitutions en France et au Japon. Un colloque qui se déroule ici également, vous l'avez dit, Monsieur le Président, grâce à Madame la députée Lauriane Rossi, qui va nous rejoindre, qui est auteur à l'Assemblée nationale, et grâce à ses services qui ont rendu possible cet événement, la tenue de ce colloque dans cette salle, et puis la réception qui aura lieu ce midi à la culture, à laquelle je ne pourrai malheureusement pas assister, étant pris par un autre engagement en début d'après-midi à Poitiers. Enfin, je souhaite saluer la grande originalité de ce colloque, qui consiste à associer les réflexions des parlementaires japonais et français et des universitaires des deux pays. Regard croisé sur la Constitution au Japon et en France, avec, et c'est très original, un regard croisé d'universitaires et de parlementaires, et je crois que ça fait toute la richesse de ce colloque qui est organisé aujourd'hui. Je remercie, comme vous, Monsieur le Président, tout particulièrement Madame la députée Yamao, pour sa présence, malgré l'ouverture aujourd'hui à Tokyo d'une session extraordinaire du Parlement. Je remercie à nouveau le soutien de l'ambassade du Japon en France. C'est important pour nous, cela conforte ce partenariat. Pour le simple citoyen, je ne suis ni parlementaire, ni juriste, publiciste, spécialiste de ces questions, pour le simple citoyen, Monsieur le Président, cette constitution qui devait durer en 1958 seulement quelques années, a connu 24 révisions et a enclenché la 25e révision depuis 1958 avec incontestablement une accélération depuis le début des années 1990. Parmi les révisions marquantes pour un citoyen, je signalerai, vous l'avez évoqué, la réforme de 1962 qui institue l'élection du président de la République au suffrage universel direct et celle d'octobre 2000 qui instaure le quinquennat présidentiel et la modification du calendrier électoral, puisque dorénavant, les élections législatives se déroulent dans la foulée de l'élection présidentielle, et cela explique quelques résultats électoraux et quelques vagues, parfois roses et parfois d'un parti qui essaie de bousculer l'organisation politique traditionnelle, comme après l'élection du président Macron. Pour le professeur de géographie et d'aménagement du territoire, je retiens la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui est une vraie rupture, puisque c'est la loi relative à l'organisation décentralisée de la République, une vraie rupture, car la notion de territoire est inscrite dans la Constitution, et c'est une rupture dans l'histoire depuis 1789, dans les relations entre l'État central et les territoires. Lors d'un colloque organisé par des géographes avec Jean-Pierre Raffarin, lorsqu'il était Premier ministre, je me souviens qu'il nous avait déclaré que la République avait besoin du territoire, et j'avais répondu que les territoires avaient aussi besoin de la République afin que les territoires ne se traduisent pas par des risques de communautarisme. Et on avait eu un colloque et des échanges particulièrement passionnants avec le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et puis je retiens toujours en tant que spécialiste des questions d'aménagement du territoire les différentes révisions constitutionnelles liées à la construction européenne à partir de juin 1992 pour pouvoir ratifier le traité de Maastricht jusqu'à celle de 2008 afin de ratifier le traité de Lisbonne. Ces quelques rappels reflètent la capacité du législateur à adapter la Constitution et soulignent l'importance de votre colloque. Et à nouveau, j'adresse tous mes remerciements aux organisateurs Poitevin pour cette manifestation. Je vous souhaite un colloque très stimulant qui, je l'espère, permettra de renforcer les liens scientifiques et amicaux entre les universités de Tokyo et de Kyoto et nos universités françaises. Merci pour votre attention.